Dans quelques instants, virus avec Jacques Pradal et Laurence Blondel. Tout de suite, les informations avec Antoine Mercier.
Le second article de Jean-Pierre Chevènement, publié ce soir par le journal Le Monde. Le salut ne peut venir que d'un ressaisissement à la fois d'en haut et d'en bas, écrit l'ancien ministre de l'Industrie. La vérité est que les États-Unis nous ignorent et qu'ils continueront à le faire si trop de Français continuent à se comporter avec eux comme moins que des Grecs sous l'Empire romain.
À la manière de Montaigne, Jaurès, Terra Nova, la Grande Table ouvre aujourd'hui un think tank éphémère. Cette année encore, nous avons tenté de baliser ensemble tous les champs de la connaissance pour comprendre les évolutions, voire les petites révolutions qui se jouaient, Antoine, dans chaque discipline, en donnant la parole à des penseurs, à des chercheurs, à des veilleurs. Pour conclure cette saison, après hier, les réseaux sociaux ont-ils tué le débat? On ouvre le deuxième et dernier volet de cette réflexion sur l'état du débat d'idées en France avec cette question, où sont les nouveaux clivages? Et quatre orchestrateurs de la vie des idées, quatre observateurs avant tout. Anne-Lorraine Bujon, rédactrice en chef de la revue Esprit, qui n'est pas encore dans ce studio, mais dont on pense qu'elle ne va pas tarder à arriver. Christophe Caron, rédacteur en chef à Slate.fr, bonjour.
Bonjour.
Jean Birnbaum, rédacteur en chef du Monde des Livres, et notre Antoine Mercier, donc, qui pour sa dernière émission, passe de questionneur à répondeur et dont on attend qu'il se dévoile un peu. Ça va commencer peut-être là tout de suite. Bonjour, rebonjour Antoine.
Bonjour.
Qui combat Bâton, au nom de quoi? Ça, c'était en 2015. Introspection, les intellectuels explorent la crise en nous. Ça, c'était l'année d'avant. Temps de crise ou crise du temps. C'était en 2012, etc., etc. Dans le cadre de votre journal, celui de Midi 30, depuis toutes ces années, Antoine Mercier, vous avez mené des séries d'entretiens autour de la crise. Alors, vous allez ouvrir le bal aujourd'hui. Gauche, droite, est-ce que ce clivage le plus structurant de la Ve République est mort ou juste en crise pour vous?
Forcément en crise. Je crois que rien n'est jamais mort sur les choses fondamentales qui structurent l'espace public. Mais j'élargirais peut-être un peu sur ce clivage droite-gauche. C'est, je crois, l'ensemble des problèmes des clivages, c'est-à-dire où mettre une limite, où y a-t-il des différences à faire. Une question plus large qui se pose dans beaucoup de domaines. Prenons quelques exemples, parce que ça permettra comme ça de voir que cette question, finalement, elle s'étend sur beaucoup de questions aujourd'hui. Où sont les limites? Est-ce qu'il y a des limites? Faut-il même des limites? Par exemple, on parle des limites de la démocratie, populisme, démocratie libérale d'un côté, de l'autre côté, limite de la démocratie aussi dans le cadre du mondialisme financiarisé dont on parlait avec Michael Fossel il n'y a pas longtemps. Pour certains auteurs d'ailleurs, comme Jean-François Bayard, c'est le revers et l'avers d'une même médaille. Est-ce qu'il faut considérer aussi qu'il existe par exemple une différenciation entre les sexes, entre les genres? Voilà encore une question de frontières qui se pose. Le débat dure depuis plusieurs années. Est-ce qu'il faut aussi, et le débat est apparu récemment d'ailleurs de manière extrêmement forte, est-ce qu'il faut mettre une frontière entre l'homme et l'animal? C'est tout le débat autour de l'antispécisme ou du spécisme qui a pris une vigueur étonnante. Est-ce qu'il y a une limite aussi à poser même entre l'homme et la nature? On voit des livres tout à fait intéressants qui ont beaucoup de succès, qui parlent des arbres, qui se parleraient entre eux et qui nous parleraient aussi par la même occasion. Est-ce qu'il y a des limites, par exemple, en matière de filiation entre le fils et le père? Est-ce que cette relation est asymétrique ou pas? Est-ce qu'il y a une limite entre le privé et le public? On voit encore aussi cette crise se poser, où la mettre en place, la frontière s'efface. L'intime, l'estime de soi ne se construit plus finalement à l'ombre de son moi public, mais elle se construit quand même à coup de likes, à coup de followers, et tout ça c'est dans l'espace privé.
Alors Antoine, on va faire tourner un peu la parole sur ce clivage.
J'en remets pour deux secondes,
oui.
Parce que regardez,
mais vous allez revenir.
Je veux rajouter les limites des vertus du marché, les limites du libre-échange, et aussi le corps et l'esprit, parce que là aussi c'est un débat de société qui est arrivé. Est-ce qu'il y a une différence entre le corps et l'esprit? Et c'est là où on voit le retour en force d'un espèce de spinozisme disons à l'usage de tous, je dirais. Est-ce qu'il faut qu'il y ait effectivement est-ce qu'il faut arriver à ce monisme pour trouver une harmonie, c'est-à-dire enlever cette différenciation? Voilà beaucoup de critères qui font qu'à mon avis c'est ça qui caractérise beaucoup de débats. Merci Olivia.
Christophe Caron, est-ce que ce clivage gauche-droite dont on a dit qu'il était mort et enterré avec l'élection d'Emmanuel Macron et son en même temps a pour vous complètement disparu? Et si oui, à quel autre clivage a-t-il éventuellement laissé place ?
Alors, on voit qu'il a disparu dans les études d'opinion et dans la différence, dans la différente polarisation de la politique française, qui n'est plus polarisée vraiment en gauche-droite. Je pense qu'on pourrait voir un clivage entre une société ouverte et une société fermée. C'est un clivage qui, pour moi, englobe une grande partie des différences qu'a souligné Antoine. En fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, nous, en tout cas, dans ce qu'on voit dans les débats qu'il y a, que ça se polarise autour des questions de religion, des questions de laïcité. Au sein de la laïcité, il y a encore des polarisations sur des laïcités intégrales ou inclusives. Il y a le débat du droit des femmes. Alors évidemment, on est passé à la libération de la femme des années 70 à un nouveau débat avec un féministe intersectionnel contre du féminisme pro-sexe qui est plus républicain. On a les débats aussi sur la société fermée aux migrants ou ouverte à l'autre. Donc voilà, c'est vraiment pour moi cette différenciation que fait Perrino, société ouverte versus société fermée, progressiste versus conservateur ou populiste et libéraux contre conservateurs.
Alors, c'est intéressant de voir sur des débats comme ceux-là, ce que vous venez d'évoquer, Christophe Caron, puisque vous êtes avec Slate aussi en charge de les orchestrer. Comment faites-vous quand des clivages aussi marqués apparaissent? On peut prendre l'exemple de la question du féminisme, mm-hmm. où vous avez d'ailleurs deux plumes qui incarnent chacune Peggy Sastre d'un côté et Nadia Adam de l'autre, des féminismes totalement différents dans leur manière d'être aussi dans l'espace public. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur donnez chacune la parole? Il y a l'idée d'un pluralisme? On fait le pour, le contre, chacun prend la parole sur ces débats, ou est-ce que vous prenez parti et vous mettez en avant certaines prises de position?
Alors, il y a un facteur qui est le facteur du nombre, c'est-à-dire qu'on a Nadia, Titiou, Lecoq, Pauline Verdusier, beaucoup de journalistes qui sont sur la même thématique féministe, et on n'a qu'une seule journaliste, Peggy Sastre, qui est sur sa vision du féminisme. Donc forcément, il y a un petit déséquilibre qu'on essaie de combler en justement programmant des papiers qui se complètent. En fait, très sincèrement, il n'y a pas d'agenda sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'en fonction des sujets qui sont traités, à fonction de ce que les unes et les autres, ou les uns et les autres d'ailleurs, ont à dire sur le sujet, du moment que le point de vue est pertinent, qu'il apporte quelque chose, qu'il éclaire différemment un point précis, on prend et on publie. On n'est pas dans une systématisation de point A, point B, première idée, réponse à ces idées. Ça, c'est pas ça qui nous intéresse. On n'essaie pas d'équilibrer comme ça. On essaie à chaque fois d'apporter des clés aux gens qui nous lisent.
Et de faire des choix. Anne-Lorraine Bugeon, de votre côté, alors clivage gauche-droite, clivage société ouverte, société fermée, où vous situez-vous sur cette ligne de crête? Et bonjour d'abord, puisque vous nous avez rejoints, on est ravis de vous avoir avec nous.
Bonjour. Alors le clivage gauche-droite est-il encore actif, est-il encore structurant? On a évidemment envie de dire oui et non, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un certain nombre de grandes questions qui divisent et à gauche et à droite. On en a déjà évoqué quelques-unes, mais la question européenne, la question de l'accueil des migrants, la question de la désinformation russe, la question du retour des nationalismes, on voit bien que ce sont des questions qui n'appartiennent plus ni à la gauche ni à la droite. Et du coup, ce qui nous frappe à la revue, c'est qu'on se retrouve face à une série de questions très fragmentées, qu'il est difficile de rassembler dans un grand ensemble qui présenterait une cohérence idéologique. Et je crois que ça a déjà été évoqué précédemment, cette idée qu'on se retrouve devant une série de questions de société, finalement, qui font surface, par rapport auxquelles on est un peu sommé de se situer, d'une façon parfois un peu absurde. Vous êtes pour ou contre les migrants, vous êtes féministe ou vous êtes anti-féministe, voilà, MeToo ou pas MeToo. Donc on voit qu'on est entré dans ce régime un peu du face-à-face, où il faudrait savoir, sur une question qui se présente, dire tout de suite voilà, dans quel camp on se trouve. Et ça nous laisse effectivement désarmés. Et bon, moi j'y vois beaucoup le signe que les questions de société, les questions sociétales ont pris sur le pas sur la question sociale ou sur la façon dont on voudrait embrasser la question sociale. Le clivage gauche-droite, je crois qu'il est toujours en partie opérant, mais qu'il ne nous sert pas à répondre à un certain nombre de questions. Et je crois surtout que s'il est encore opérant, ce à quoi on assiste, c'est quand même à l'effondrement d'une certaine gauche social-démocrate et qui ne sait plus très bien quoi dire devant le monde qui nous arrive.
Jean Birnbaum, des clivages presque trop clivants, c'est aussi ce que nous dit Anne-Lorraine Bujon, d'une certaine manière, avec des positions trop radicalisées pour qu'il soit finalement possible de faire émerger un débat, un dialogue qui soit porteur de sens. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là aussi tout au long de cette année qui s'est écoulée au monde des livres, notamment, que vous dirigez?
Oui. Ben, je pense qu'effectivement, il y a deux questions qui sont liées. C'est-à-dire que le clivage de gauche-droite, d'une part, vous savez, il y a cette fameuse citation d'Alain, ce mot d'Alain, le philosophe, où il disait toujours, quand on me demande si la droite et la gauche ont encore une quelconque valeur, si ce clivage a encore une quelconque pertinence, je me dis que la question doit être posée par quelqu'un qui n'est pas de gauche. C'est une citation qui est célèbre. Donc, et c'était il y a très longtemps. Donc, en fait, ce truc-là, revient en permanence. Aujourd'hui, le clivage droite-gauche, il reste subjectivement quand même assez fort, je pense, pour beaucoup de gens. Et notamment la question sociale, la question de l'émancipation sociale reste très forte. Et je pense à tout l'avenir devant elle, et va revenir en force de plus en plus. Le problème étant effectivement que le clivage, pour qu'il y ait du clivage, le clivage, c'est un mot qui vient tout de suite, ça fait signe vers les minéraux, vers la scission, vers la crise aussi justement, parce que la crise, c'est aussi une question de la critique, la séparation, le discernement, etc. Le clivage, c'est quelque chose qui vient scissionner ou fracturer. Il faut pouvoir, donc ça tend vers la pierre, pour qu'il y ait du clivage. Et aujourd'hui, on est à un moment où effectivement le problème est moins le renouveau, enfin le déplacement des débats et des thématiques que la possibilité même d'un échange. Je pense qu'il y a eu d'autres moments où c'était le cas, peut-être dans les années 30, peut-être. Mais aujourd'hui, on est à un moment à nouveau de très grand durcissement. On le sent tous dans nos vies personnelles, dans nos rapports d'amitié. On le sent quand on interroge des intellectuels, qu'on leur demande s'ils dialoguent avec d'autres, s'ils lisent les autres, s'ils leur disent les choses, si quand ils trouvent qu'un texte est mauvais, ils le leur disent. Est-ce qu'ils leur répondent? Enfin, est-ce qu'il y a la possibilité d'un langage? Et pour ça, il faut, c'est la question à nouveau de la pierre. Vous savez que il y a un très beau passage de Roland Barthes, dans son journal de Chine. Et alors c'est la Chine communiste, la Chine maoïste, etc. Et donc il a affaire à cette langue de bois, cette langue complètement nécrosée partout. Et il parle de brique. Il dit c'est un langage, c'est comme de la brique. Et en fait c'est la langue de l'idéologue militant, la brique, la langue prise, fermée, la langue fermée, prise dans la bonne conscience et les clichés. Et d'un autre côté, chez Barthes, dans les fragments des discours amoureux, il y a ce qu'il appelle la bouffée de langage, la langue ouverte, la langue telle qu'elle vous vient, la langue telle qu'elle est sincère, telle que vous laissez prendre par un discours qui n'est pas forcément d'ailleurs que vous maîtrisez pas, qui est sans ordre ni contrainte. Et c'est cette espèce de face à face que lui théorise jamais, mais que moi j'aime bien reconstituer, entre la brique d'un côté qui est le langage de l'idéologie et la bouffée de l'autre qui est le langage de l'amoureux, de quiconque a un rapport à la sincérité des choses. Et bien aujourd'hui on est en plein dedans, on a de plus en plus affaire à des briques de langage militant qui nous empêchent paradoxalement, justement, que ces briques sont tellement dures qu'on n'arrive pas à les scissionner, donc à les cliver.
Des briques, des pierres et peut-être quelques pavés. Est-ce qu'il y a eu, parce qu'on se pose toujours la question de savoir où sont les intellectuels, est-ce qu'il y a eu pour vous, quatre cette année, des grands livres, des pavés dans la mare du débat d'idées qui ont pu être jetés, des sortes d'ouvrages, des livres d'intervention qui nous ont fait réfléchir et qui ont réveillé le débat? Antoine Mercier.
Alors là, vous
Christophe
êtes,
Caron, Anne-Lorraine Bujon, Pierre Birnbaum.
Parce que... Jean. Moi c'est Jean.
Hein? J'ai dit Pierre, pardon. je l'adore. Hein. Jean, pardon.
Là, il y a un livre de Pierre Birnbaum.
On l'a reçu cette année d'ailleurs. Très bien. Très très bien.
Spéciale dédicace.
Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont marqué? Oui, d'accord. Mais je pense que ce silence...
Non, mais vous êtes témoin de la chose. Il y a plein de livres qui nous ont marqué, beaucoup, beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes membre du jury, Olivia, du prix Pétrarque, ouais, de l'essai. Et on a eu cette discussion. Il y a plein de très bons livres. La vie intellectuelle, il n'est pas question de dire qu'il n'y a pas de vie intellectuelle en France. Il y a une vie intellectuelle très riche. Il y a plein de gens magnifiques. Il y a toute une nouvelle génération de gens qui lisent de tout, de la poésie, de la philo, qui savent tout sur tout, qui sont incroyablement impressionnants et généreux et qui, justement, cassent les limites de plein de choses. Mais après, c'est vrai que la question du débat public, je pense que ça c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand on est face à toutes ces briques, parfois on ose de moins en moins intervenir, et les gens qui savent, c'est-à-dire les savants, de plus en plus, j'ai l'impression, ont tendance à ne pas avoir envie d'intervenir dans le débat public. Peut-être, ça rejoint les questions que vous avez eues hier sur les réseaux sociaux, mais il y a cette question qui se pose. Aujourd'hui, faire un livre d'intervention, forcément, ça implique de se retrouver dans une arène une arène très difficile où la mauvaise foi est parfois reine et où vous en prenez plein la gueule et donc parfois il y a une tendance et je connais beaucoup, moi j'ai beaucoup d'amis qui n'ont plus envie d'intervenir dans le débat public et qui ont plutôt envie de cultiver leur jardin savant, érudit, etc. en se disant que peut-être ça va irriguer le débat public et permettre de faire émerger des nouveaux questionnements, etc. et même de rendre le monde meilleur. Mais cette question-là, effectivement, aujourd'hui, quels sont les livres qui ont vraiment créé le débat? Je pense qu'il y en a, il y a beaucoup de choses. Il y a le Todd, il y a eu le Gérald Bronner qui est très contesté, etc. sur la sociologie. Il y a eu le débat autour de Maurras. Bon, c'est pas un livre d'intervention, mais c'était intéressant ce débat autour de Maurras. Et à nouveau, c'était la question de nommer les choses. Est-ce qu'on peut nommer les choses? Et c'était en fait assez difficile. On a perçu à ce moment-là que c'était assez difficile. Et donc, il y a ce passage de Marc Bloch magnifique dans L'étrange défaite où il dit que chacun dise franchement ce qu'il a à dire. La vérité naîtra de sincérité convergente. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus affaire à un débat public où on a l'impression que c'est pas la question de la sincérité qui est en jeu, que c'est plutôt la guerre civile ou la guerre ou la victoire idéologique naîtra de mauvaise foi triomphante.
Antoine Mercier.
Oui, moi j'ai l'impression que pour revenir là-dessus, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui... Le débat est empêché parce qu'il y a quand même une opinion dominante. Alors je reviens là-dessus, peut-être que ça ne va pas vous convenir à tous, mais il y a quand même une opinion dominante qui fait que les choses se déroulent telles qu'elles se déroulent et l'idée d'une transformation, quand on dit que la gauche est de côté, l'idée d'une transformation sociale, c'est pas que les gens ne la souhaiteraient pas dans l'idéal, mais... elle devient comme quelque chose qui n'est plus de pertinence aujourd'hui. C'est-à-dire vouloir tout d'un coup permettre un développement par exemple des avantages sociaux. Hein. Aujourd'hui, on est toujours sur un mode de restriction. Donc l'idée même qu'il puisse y avoir un progrès social, en quelque sorte, est sortie du champ de la possibilité même de la politique. Alors évidemment, à partir de là, la gauche n'a plus tellement de sens. Et je dirais que la droite, finalement, non plus. Et ce qui n'a plus que le sens, le ni gauche ni droite, c'est adaptez-vous à ce qui se passe. C'est ni gauche ni droite. C'est ce qui se passe. Il y a une neutralité du monde qui est en jeu. Et les intellectuels, à mon avis, et c'est là où ils doivent entrer en jeu, sont là précisément pour essayer de bousculer cette vision qui glace en quelque sorte la situation. Donc c'est pas tellement parce que je crois que le débat est bloqué, parce que il se trouve qu'il y a un champ d'opinion majoritaire qui empêche l'idée même du débat et que donc il y a beaucoup quand même d'intellectuels qui essayent d'en sortir et d'en faire sortir. Peut-être que les médias en revanche ne donnent pas forcément non plus la parole à ceux qui cassent le plus de vaisselle.
Anne-Laurine Bugeon, on a le sentiment que vous avez été surtout marquée dans ce que vous évoquiez par l'absence de débat. Mais alors qu'est-ce qui neutralise le débat pour vous aujourd'hui?
Alors oui,
c'est la multiplication des thèmes.
Il y a des choses qu'on a déjà évoquées sur la polarisation, ouais. La fragmentation, la difficulté de se situer sur un terrain relativement central, relativement mesuré, qui n'empêche pas la sincérité ou la passion de la modération, comme disait Pierre Hassner en citant Raymond Aron, je crois. Mais d'être sur un terrain où on peut entendre l'autre, où on peut échanger des arguments. Donc c'est vrai qu'on voit cette polarisation aux extrêmes gauche-droite, et je crois que ça empêche de penser. En même temps que je crois, il faut dire qu'il y a peut-être plus de livres forts aujourd'hui du côté d'une pensée conservatrice ou d'une pensée des identités dans laquelle nous, à la Revue Esprit, on ne se reconnaît pas. Mais je veux dire, il se passe quelque chose dans la pensée de ce côté-là. Voilà. Ensuite, je crois qu'il y a une... Alors, bon, j'aurais donné l'exemple du livre de Pierre Manon, par exemple, que je trouve un livre fort et un livre avec lequel nous sentons en désaccord sur un certain nombre de points. Mais il y a là une pensée construite, forte, percutante, c'est absolument indéniable pour moi. Alors ensuite, moi je pense qu'il y a une sorte de confusion, enfin, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas ce qui demande à être pensé, ou alors on le sait trop bien. Enfin, je pars par rapport à l'histoire de la revue Esprit, si vous voulez. Nous, on vient de la gauche anticolonialiste, de la gauche antitotalitaire, et ce qu'on voit quand même, c'est que depuis les années 90, donc on a perdu notre ennemi, en quelque sorte, la figure de la diversité n'est plus là, et ce qu'on a à la place, c'est une mondialisation libérale qui pose un certain nombre de questions, de problèmes pour l'humanisme, pour l'émancipation, pour le progrès. Et c'est la difficulté à penser cette mondialisation libérale et à la penser dans des termes pertinents. voilà, on ne sait pas très bien ce qui doit être pensé ou comment le penser sans se retrouver, je crois, proche de gens dont on n'a pas très envie d'être proche, en fait. Et des phénomènes complètement nouveaux, je ne sais pas, la Chine et l'alliance de... Voilà, vous avez là l'économie de marché et une absence totale de liberté politique associée maintenant à un cauchemar de technologie sécuritaire. Voilà. Alors, comment on pense ça? Comment on pense la Chine aujourd'hui?
Christophe Caron, je ne sais pas comment on pense la Chine aujourd'hui, mais est-ce que vous avez aussi le sentiment qu'il y a en ce moment un courant plutôt conservateur, plutôt identitaire, qui est en train de gagner, en tout cas sur le champ des idées?
Alors, juste pour revenir sur la Chine, Ouzbek Erika fait un très bon dossier sur le cauchemar chinois ce mois-ci à lire. Sur le champ conservateur, alors le champ conservateur a failli gagner. Il y a 5 ans, on l'imaginait très tout puissant. Les livres conservateurs marchaient très bien en librairie. Fillon était porté par ces idées-là, était porté par ses troupes militantes. Politiquement, ça s'est pas traduit dans les urnes, mais pourtant, le courant conservateur est encore très vivace. On le voit avec... Il y a une édition qui est très dynamique avec l'Incorrect. On voit aussi que beaucoup d'éditorialistes sont beaucoup plus bruyants. Les éditorialistes conservateurs sont beaucoup plus bruyants. Ils sont beaucoup plus présents. Donc, en termes de prévalence des idées dans les médias, ils sont là. Après, il y a une grande partie, vous avez traité des réseaux sociaux hier, mais le débat s'est déplacé. C'est-à-dire qu'il y a la grande nouveauté par rapport aux années 30 que vous citez tout à l'heure, Jean, et au débat qu'il y a pu y avoir ces décennies précédentes, c'est qu'il n'y a plus que les sachants ou les savants qui parlent. Le débat s'est déplacé, tout le monde a la parole. Des paroles qui ne sont pas forcément structurées, des paroles qui ne sont pas forcément pensées ou qui ne sont pas, qui ne reposent pas sur des bases solides. Et c'est aussi ça qui donne un énorme bruit dans lequel on n'arrive plus à retrouver justement des développements intellectuels riches et structurés. Donc voilà ce qui aussi brouille beaucoup. Et quand Jean vous dites que effectivement il y a plein d'intellectuels qui n'osent plus écrire, nous on le voit sur Slate, des gens qui n'ont pas forcément envie de partir sur des sujets clivants parce qu'ils savent que derrière il faudra affronter des hordes de gens en désaccord qui n'ont pas forcément ni lu ni compris ce qui se dit. Je vais prendre un exemple assez frappant. C'est l'exemple de Medine au Bataclan. Alors, sans me prononcer sur le fond de fallait-il l'inviter ou non, on a vu pendant 2 jours des intellectuels, des politiques et des anonymes débattre des paroles de chansons de ce rappeur. Et je me suis rendu compte, moi, en les lisant un peu tous, que personne, en fait, n'avait fait un truc tout simple qui était de lire l'intégralité de son œuvre et d'essayer de comprendre ce qu'il avait fait sans chercher à justifier encore une fois dans un sens ou dans un autre, mais rien que ce fait là montre en fait que le débat d'idées est biaisé puisque on réagit beaucoup avant de comprendre, avant de savoir. On reste sur le sensible et on ne va pas vers l'intelligible, et en restant sur le sensible, le débat d'idées forcément se contracte et s'appauvrit.
13h21 sur France Culture.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jespère.
La Grande Table ouvre aujourd'hui pour cette dernière son petit think tank éphémère avec nos invités Anne-Lorraine Bujon de la revue Esprit, Christophe Caron de Slate.fr, Jean Birnbaum du Monde des Livres et notre Antoine Mercier. On est ensemble jusqu'à 13h30. Jean Birnbaum, vous souhaitiez réagir sur ce que disait à l'instant Christophe Caron et peut-être sur les espaces du débat et ses clivages et une certaine violence aussi dans la manière dont le débat se formule aujourd'hui.
Oui, et puis une impossibilité de cette passion de la modération, de la nuance, parce que Christophe Caron citait cette affaire, le mot est très gros, cette péripétie, ce bruit, ce brouhaha autour de ce buzz autour de Medine, du rappeur Medine. Moi j'écoute beaucoup de rap, je suis très intéressé par cette inventivité lexicale, etc. Et dans cette affaire, justement, je pense que c'est à chaque fois, c'est des trucs qui durent 2-3 jours. Il y a eu Ménel, il y a eu l'affaire de la jeune femme voilée de l'UNEF, etc. Et à chaque fois, moi je suis très frappé par le fait que finalement on ne dit pas les choses nulle part. En fait, on veut dire les choses. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la fachosphère, ce qu'on désigne comme la fachosphère, qui tout d'un coup dit tout un tas de choses qui en partie sont fausses, en partie, largement en partie. J'ai vu passer des choses sur Medine qui étaient complètement loufoques. Et puis de l'autre côté, vous avez une réaction qui dit « Ah voilà, la fachosphère dit n'importe quoi, circuler, rien à voir. » Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit à l'instant, si vous regardez les textes de Medine, en fait, c'est pas si grave, etc. Et donc tout le monde a dit, en gros, que la polémique portait sur les textes où il dit « Il faut crucifier les laïcs, etc. » Mais pas du tout, en fait. Le problème, s'il y en a un, Je dis pas qu'il y en a un, mais à ce moment-là, il faut juste dire les choses. Il faut juste dire les choses, et c'est très difficile de pas tomber soit dans un extrême, soit dans l'autre. C'est le gros problème du en même temps quelque part. Et ben en fait, le problème, c'est que Medine, il y a plein de photos, il fait la quenelle. La quenelle, c'est un geste qui n'est pas anodin. C'était pas un texte de rap. Si demain on voit Pascal Obispo qui fait le salut nazi, je pense que on lui cherchera quelques noises. J'ai vu passer un tweet d'un site important sur la conspiration qui montre que dans une de ses vidéos, il a mis un livre de Kémy Séba. Que c'est Kémy Séba, qui est un monsieur qui a des thèses extrémistes, racistes, etc., très, très dur. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont en fait ambiguës, que moi j'ignorais complètement, que j'ai découvertes à ce moment-là. Donc mon premier réflexe a été de dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va lui chercher des noises, je connais ses textes, oui d'accord, c'est compliqué, mais c'est du rap, etc. Et en fait, je me suis retrouvé tout de suite pris, et j'ai eu aucune envie d'intervenir, ni de tweeter, ni de faire quoi que ce soit, entre d'un côté des gens qui l'accablaient de tous les maux et qui avaient très largement tort, et de l'autre des gens qui disaient « Ah là là, mais si la fâcheuse fait l'attaque, c'est qu'il n'y a aucun problème, il suffit de lire ses textes, comme vous l'avez dit, et en fait, on voit que c'est pas si grave. » Et donc, c'est le problème, et ça nous... Alors, c'est tout petit, c'est un tout petit exemple, mais ça nous met en plein dans l'histoire de la revue Esprit, quelque part. Vous avez cité l'anticolonialisme. Vous avez dit, nous sommes une revue qui vient de la galaxie antitotalitaire. Mais ça n'est que ça, la question de comment faire pour être dans le en même temps. Dans les années 30, on aurait dû pouvoir, et on ne pouvait pas, on aurait dû pouvoir à la fois dénoncer les crimes du stalinisme et continuer à se revendiquer de l'émancipation sociale, voire de la révolution.
Mais l'affaire Medine est un assez bon exemple où dans les 4 minutes à peu près, celui qui prenait la parole se faisait ou traiter d'islamo-gauchiste ou traiter de réactionnaire. Hein. Oui, ça a été ça quand même un des grands mots.
Parce qu'on est,
donc une manière aussi de stigmatiser ou d'étiqueter l'autre dans le débat.
Parce qu'on est juste, je voulais juste terminer là-dessus, pour prendre deux exemples et pour l'inscrire dans la revue Esprit. Les années 30, la question antitotalitaire et la question, par exemple, antistalinienne ou du stalinisme, qui était qu'on ne pouvait pas, c'était impossible, se dire révolutionnaire, communiste, et en même temps, ou socialiste, et en même temps dénoncer les crimes du stalinisme. Tout de suite, vous faisiez le jeu de l'impérialisme. Effectivement, tout de suite, on était catalogués, comme vous le disiez, dans un camp ou dans un autre. Et vous avez parlé de la question anticoloniale, anticolonialiste. Et bien, dans les années 50-60, et bien, c'était très difficile à la fois de dire qu'on était pour l'indépendance de l'Algérie et de critiquer en même temps les crimes du FLN et des indépendantistes algériens. Donc, la revue Esprit s'inscrit complètement dans cette histoire. Et aujourd'hui, on a un petit retour de bâton, un petit retour de brique, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'à nouveau, on est dans une période où c'est très difficile de dire deux choses à la fois et de ne pas se retrouver forcément dans un camp ou dans l'autre, qui sont des camps qui parfois assument explicitement leur mauvaise foi.
Anne-Lorraine Bujon et Christophe Caron, un dernier petit tour de table et ce sera le mot de la fin déjà pour Antoine Mercier.
Juste un mot pour réagir à ce qu'a dit Jean sur. Juste un mot sur Medine, parce que c'est significatif de quelque chose en fait. Effectivement, nous, quand on a. J'ai parlé des paroles, mais on a fait un très long papier qui rappelait les paroles, qui rappelait ses quenelles, qui rappelait ses prises de position, ses photos à côté de Dieudonné ou d'autres. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que ce débat-là, on a vu des gens structurés et intelligents surréagir immédiatement. Sûr. Et en fait, c'est en ça que ça devient compliqué, si vous voulez, de pouvoir écouter des gens qu'on voit se tromper par ailleurs. Et du coup, ça brouille un peu les repères. Et on voit qu'il y a une hystérisation des gens les plus structurés, les plus intellectuels. Et ce qui après, à mon avis, appauvrit justement leur positionnement.
Alors, immédiateté, surréaction, hystérie pour parfois, c'est là où le temps long, celui de la revue comme celle que vous dirigez, Anne-Lorraine Bujon, peut peut-être permettre de reprendre un peu de distance par rapport à tous ces débats actuels.
Oui, et plutôt que chercher des fractures ou plutôt que chercher des clivages, effectivement, essayer de chercher à tenir les deux bouts de la chaîne, comme Jean Birnbaum l'a très bien décrit. Et pour revenir à mon exemple chinois, où aujourd'hui, voilà, comment est-ce qu'on critique, comment est-ce qu'on dénonce les impasses de la mondialisation libérale sans non plus jeter avec l'eau du bain la démocratie représentative, les institutions, les droits de l'homme, le besoin d'avoir un débat ouvert et pluraliste, parce que c'est sur ça que se fonde la raison publique. Donc comment aujourd'hui est-ce qu'on peut tenir les deux bouts de la chaîne? Et je crois que quand on a parlé de société ouverte dans notre dernier numéro, c'était à ce type d'ouverture qu'on faisait référence.
Antoine Mercier, mot de conclusion?
Peut-être qu'il y a une diachronie, c'est-à-dire qu'il y a deux temps, le débat d'opinion et le débat d'idées, de pensées. Je crois que là, c'est là où on s'est trompeur, parce qu'on a l'impression qu'un débat d'opinion sur n'importe quel sujet est un débat où l'on pense. Non, est-ce que ça a un sens de dire, est-ce que je pense que Medine doit aller au Bataclan? Est-ce que ça, c'est de la pensée? C'est pas le problème. Bon, est-ce que ça choque des gens? C'est un problème d'appréciation. Après, je comprends, la question existe, mais c'est pas un débat qui fait penser, qui met vraiment des positions et des arguments face à face. Donc, le problème, c'est que c'est le temps, la temporalité qui s'est réduite à l'immédiateté, ce qu'on a répété. On est là dans un brouhaha d'opinions sur des sujets qui sont finalement relativement secondaires et on ne pense plus à long terme, à moyen terme. Et la pensée, c'est précisément quand même ce qui se meut dans le temps avec une projection, avec une volonté de transformation, une projection singulière de la personne sur un avenir collectif. Et c'est ça qui nous manque. Donc il faut déjà enlever tout ce qui parasite peut-être. Il faut arrêter les machines.
Merci beaucoup, beaucoup Antoine Mercier. Merci Christophe Caron, merci Jean-Bien de Baume. Merci à vous Anne-Lorraine Bujon d'avoir permis cette dernière grande table autour du clivage, des nouveaux clivages et du débat d'idées. On aura l'occasion d'en reparler à la saison prochaine. Et justement, pour terminer cette saison, on a demandé à un réalisateur qu'on aime bien ici à la grande table, Éric Rochant, qui maîtrise comme personne l'art de la série et du cliffhanger, de nous choisir un générique de fin. C'est celui d'ailleurs qu'on retrouvera au générique de la saison 4 du Bureau des Légendes à voir cet automne. Et il a choisi Tamino, Spy Live. On en écoute quelques notes.
There's a breeze makes you sneeze, and into your world of elegant freedom I could show.
Le Belge Tamino avec Éric Rochant, que j'aurai le plaisir de retrouver pour une masterclass qui sera diffusée le 14 août à 11h durant l'été. Je vous retrouverai quant à moi aussi lundi pour ouvrir la saison estivale avec toute l'équipe des Matins d'été. Et puis rendez-vous fin août pour une nouvelle saison de La Grande Table. On va rester sobre d'ici là, dans tous les sens du terme, mais joyeux au souvenir de toutes ces belles émissions partagées, conçu, pensé, conceptualisé, imaginé, rêvé à plusieurs têtes. Merci à toute l'équipe, à Claire Maillot, Clémence Marie et Henri Leblanc. Merci beaucoup à Maxime Morin et Chloé Leblon qui nous ont aussi accompagnés durant toute cette aventure, à Perret Legras qui a réalisé l'émission tout au long de l'année, et puis à l'aide très précieuse que nous ont apporté nos stagiaires en or, Bertie Bourdon, suivi d'Émile Boutelier et de Liana Valken. Donc merci à eux tous de la plus sincère des manières, et belle route à celles et ceux qui ont choisi de partir vers de nouvelles aventures. Très bel après-midi sur France Culture.